Dans l'évangile de Luc, on va lire dans l'évangile de Luc, chapitre 19, première lecture d'un récit bien connu. Luc, chapitre 19, verset 1er. Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici, un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres, ou je décide de donner aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. » Et puis on va dans l'évangile de Luc aussi, chapitre 23, verset 8, une autre rencontre avec Jésus. On lit à partir du verset 6. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Amen. Quel est le lien entre ces deux histoires ? Le lien entre ces deux histoires n'est pas qu'on les trouve toutes les deux dans l'évangile de Luc. Ce n'est pas non plus aussi que ce soit passé plutôt vers la fin. Zachée a rencontré Jésus peu de temps avant sa crucifixion, puisque Jéricho est le dernier village par lequel Jésus est passé. Et la rencontre avec Hérode, bien sûr, s'est passée quelques heures avant la crucifixion de Jésus. Le lien n'est pas non plus que ces deux personnages étaient détestés, autant Hérode que Zachée, pas pour les mêmes raisons, mais ces deux personnages, on ne les aimait pas. Le lien que je voudrais vous faire sortir entre ces deux histoires et avec d'autres qu'on verra ensuite, c'est que ces deux personnes voulaient voir Jésus. La précision est au verset 3 pour Zachée, on y reviendra. Il cherchait à voir qui était Jésus. Et ici, c'est précisé au verset 8, « Depuis longtemps, Hérode désirait le voir. » Désirer voir Jésus, aspirer à Jésus, à quelque chose de la part de Dieu, c'est une bonne attitude. Je retiens dans le témoignage d'entre frère Julien que finalement, quand ils ont vu cette annonce sur le journal, ça répondait à un désir. Et quand il y a un désir, souvent, Dieu bénit. Entre quelqu'un qui n'a aucun désir de Dieu et quelqu'un qui a le désir de Dieu, Dieu va bénir celui qui s'y devait choisir. Mais Dieu bénira celui qui a le désir, celui qui a soif. Pourtant, dans notre histoire, il y en a un qui a été béni et l'autre n'a pas été béni. Hérode désirait voir Jésus. Il nous est même dit qu'il désirait le voir depuis longtemps. Donc ce n'est pas une envie de dernière minute, et c'est quelque chose qui datait. Et lorsqu'il a l'occasion de voir Jésus, il en est tout heureux. Alors, ça va lui arriver par Pilate. Pilate était empêtré avec l'affaire Jésus. Il avait bien compris que c'est par envie que les Juifs lui avaient livré. Il était innocent, il ne savait pas trop comment s'en défaire. Alors il va essayer de s'en défaire de plusieurs manières. Et quand il apprend que Hérode est dans le coin, hop, il essaye d'envoyer Jésus à Hérode pour que lui tranche l'affaire. Hérode ne va pas trancher l'affaire, il va lui renvoyer. Mais il était tout content de pouvoir voir Jésus et de le rencontrer. Rappelons-nous que Israël était découpé en trois juridictions. La Galilée sous la responsabilité d'Hérode, la Judée sous la responsabilité d'un gouverneur romain, Pilate. Mais ces rois comme Hérode étaient quand même sous la gouvernance des Romains. La rencontre entre Hérode et Jésus n'a pas duré longtemps. Hérode lui a posé beaucoup de questions et finalement Jésus n'a rien dit. Il n'a pas répondu. On s'interroge sur le silence de Jésus. Il nous est dit que il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu de lui, pour le voir faire quelques miracles. On pourrait dire, Seigneur, mais vas-y, fais-lui un miracle, mets-lui en plein la vue, là. On aurait envie que Jésus fasse ça. Jésus, il ne va rien dire, se taire et rien faire. Hérode sera même vexé par son attitude, et finalement, il se moquera de lui, et puis le déguisera en roi, il lui mettra une espèce de cape, puis ils vont se moquer de lui, le saluer, on imagine un petit peu la scène, c'est assez facile à visualiser. On pourrait se demander, est-ce que Jésus a eu la bonne attitude? Nous savons que Jésus sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et Jésus, il a vu le désir d'Hérode, mais il y a vu ce qu'il y avait derrière ce désir. Pourquoi Hérode cherchait à voir Jésus? Bien sûr, pour voir quelques miracles, pour un petit peu voir à quoi il ressemblait. Et Jésus n'avait rien d'extraordinaire dans son apparence. Mais il cherchait à la voir aussi parce que Hérode était angoissé. Hérode avait fait tuer Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était venu vers lui et il lui avait dit que tu vis dans le péché, que ta situation n'est pas bonne, il ne t'est pas permis d'avoir la femme que tu as. Et Hérode avait fait arrêter Jean-Baptiste. Pendant longtemps, il l'avait écouté avec plaisir. Et finalement, au bout du compte, il l'a fait tuer. Plutôt que de se laisser interpeller et de mettre sa vie en ordre, il a fait tuer celui qui dénonçait son péché. Et Jésus se tait parce qu'avec une personne comme ça, il sait très bien que ça ne servira à rien de dire quelque chose. Cet homme n'a pas voulu obéir. Cet homme n'a pas voulu changer de vie quand il a été interpellé. Jésus n'a rien dit pour lui. Et puis Jésus s'est tu parce que Hérode, il aurait voulu qu'il fasse quelques tours de magie. Enfin, il était là pour se divertir. Mais Jésus n'est pas un clown pour nous divertir. Jésus n'est pas quelqu'un qui vient nous amuser. Jésus, il a les paroles de la vie. Jésus, il est celui qui veut changer nos vies. Cet homme ne voulait pas changer de vie. Cet homme, il voulait simplement se divertir avec Jésus. Et puis, il faut se rappeler aussi que Hérode, il avait eu peur de Jésus parce qu'il avait entendu que ça serait le futur roi. Enfin, on disait tout sur Jésus. On parlait de lui comme le prochain roi qui allait renverser Rome. Et lui, il a pris peur. Il veut prendre ma place, ce Jésus. Et puis, quand il a vu qu'il n'était pas menacé, il l'a méprisé. Et voilà pourquoi Hérode voulait voir Jésus. Mais il n'y avait aucun désir de changer de vie. Il vivait dans son péché. Il baignait dans son péché et il n'avait pas envie d'en sortir. Et forcément, quand tu es dans cette situation-là, Jésus n'a rien à dire. Jésus s'est tu. Et je crois qu'il y a là une leçon qui est importante. C'est que Jésus ne fait rien, il ne dit rien ou plus rien avec une personne qui ne veut pas changer de vie. Nous sommes tous des pécheurs. Mais il y a ceux qui aspirent à un changement, qui aimeraient sortir de leur état. Et puis à ceux qui se complaisent dedans et qui ne veulent pas changer de vie. Et forcément, si on n'a pas envie de changer, à un moment donné, Jésus nous dira certaines choses et puis il se taira, il regardera. Parce que la parole de Dieu, il l'avait entendue par Jean-Baptiste et Jésus n'avait pas besoin de rajouter une couche. Il ne voulait pas en tenir compte et il est passé à côté. Je retiens qu'Hérode voulait que Jésus le divertisse. Jésus n'est pas venu pour nous divertir. Jésus, il a donné sa vie. Il est mort et il est ressuscité sur la croix pour pouvoir changer nos vies, pour pouvoir nous transformer à l'intérieur, pour faire de nous des justes, pour faire de nous des gens qui vivent une nouvelle vie. Et il n'y a que Jésus qui peut faire ça à l'intérieur. Il n'y a que Jésus qui peut laver la conscience. Il n'y a que Jésus qui peut mettre un nouveau désir. Il n'y a que Jésus qui peut donner un cœur nouveau. Il n'y a que lui qui peut le faire. Et puis, il y a Zachée. Zachée cherchait aussi à voir qui était Jésus. Zachée était un publicain, un péager qui collectait les impôts pour les Romains. Il était détesté. On ne l'aimait pas. On l'appelait un homme pécheur. On sait que les péagers étaient souvent des hommes corrompus, qui avaient une mauvaise vie. Et pour beaucoup de gens, c'est de ces gens-là qu'on ne pouvait rien obtenir. Pourtant, ce Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce désir? C'est ça qui est intéressant. Je crois qu'il y a deux choses. Zachée avait entendu dire que ce Jésus se conduisait avec les publicains différemment des autres. Jésus, il avait mangé avec des publicains. Jésus, il acceptait de parler avec eux. Jésus ne les méprisait pas. Tout ça, c'était venu aux oreilles de Zachée. Zachée devait certainement savoir que dans les 12, il y en avait un qui était un ancien publicain, Matthieu. Zachée devait savoir que Jésus avait même fait des publicains, des fois les héros de ses paraboles. Rappelez-vous cette parabole entre le publicain qui prie et le pharisien qui prie. Et celui qui a été justifié, c'est le publicain. Vous voyez, tout ça, ça, forcément, chez quelqu'un qui était détesté, ça a eu un écho. Et Zachée avait envie de connaître ce Jésus qui paraissait si différent. Et puis, dans son désir, il y a quelque chose qui, justement, n'était pas chez Hérode. C'est qu'il avait envie de changer de vie. Il était là, dénoncé par tout le monde comme un homme mauvais, mais il aspirait à ce changement. Il aspirait à vivre quelque chose d'autre. Et je suis toujours impressionné que lorsque Jésus décide de rentrer dans sa maison, ça va vite. Hein. Seigneur, je décide de rendre la moitié de mes biens. Il met tout de suite les choses en ordre. Ça y est, il enclenche la repentance. Jésus rentre dans sa vie. Et immédiatement, il permet à Jésus de faire cette œuvre de changement. Et Jésus, il a vu ça dans son cœur. Et lorsqu'on désire voir Jésus avec ce désir-là, en disant, Seigneur, je veux que tu changes ma vie. Je veux plus être addict à ça. Seigneur, je veux que tu me libères de ça. Je veux que tu me débarrasses du poids du passé. Je veux que tu transformes ma vie. Je veux plus être l'homme que je suis. Quand il y a cette démarche-là, et il y a ce désir de voir Jésus avec un tel cœur, eh bien, ça va vite. Hein. Ça va très vite, la grâce, elle se met vite en œuvre. Et Jésus agit très vite. Et je suis toujours impressionné. C'est même Jésus qui prend les devants parce qu'il voit son cœur. Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et puis le verset qui conclut, le Fils de l'homme est venu chercher ce qui est sauvé et perdu. Zachée cherchait à voir qui était Jésus, et finalement, parce que Jésus avait eu son désir, c'est Jésus qu'il cherchait aussi. Mais il y a là quelque chose de formidable, et une grande leçon, c'est que Jésus, il accueille tout pécheur qui a le désir de Jésus dans le sens de vouloir être changé. Celui qui veut changer de vie, celui qui reconnaît son péché, celui qui est vrai avec son état et qui aspire au changement, qui reconnaît même qu'il ne peut pas changer, il est dans les conditions idéales pour expérimenter la grâce en Jésus. Et avec Jésus, il n'y a pas de péché trop grand. Il n'y a pas de péché qu'il ne puisse pardonner. Il n'y a pas de péché dont il ne puisse nous débarrasser. Jésus est le Tout-Puissant. Je voudrais aussi considérer quelqu'un d'autre qui désirait voir Jésus. Alors c'est un petit peu différent. Marc chapitre 3, verset 1. L'évangile de Marc chapitre 3, verset 1er. L'évangile de Marc chapitre 3, verset 1er. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Et il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence, alors promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps, affligé dans l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il l'étendit, sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt, ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Dans le texte que nous avons lu, c'est écrit différemment, mais il nous est dit qu'ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait, ce malade. Ce récit se situe dans une synagogue, on est le jour du sabbat, et les Juifs avaient décidé que le jour du sabbat, eh ben, il ne fallait pas faire des guérisons. Pour Jésus, ça ne demandait aucun effort, ce n'était pas un travail, c'était dans sa nature. Mais ils avaient décidé, et puis ils pensaient le coincer avec ça. Ils pensaient qu'avec ça, ils transgressaient le sabbat. Ils avaient rajouté toutes sortes de règles supplémentaires sur le sabbat. Jésus a respecté le sabbat, mais Jésus ne respectait pas ce qu'ils avaient fait du sabbat. Ça, c'est important de le dire. Ils désiraient voir Jésus faire un miracle. On pourrait dire, c'est super. Sauf que l'intention, le problème, c'est qu'ils désiraient voir Jésus faire un miracle afin de pouvoir l'accuser. C'est triste. La suite est triste et navrante. Et ils sont là, ils sont dans la synagogue. Jésus là, ils voient cet homme. Ah, ils sont tous comme ça, on attend. Ils attendent, est-ce qu'il va le guérir ou pas? Est-ce qu'il va oser transgresser le sabbat? Jésus voit cet homme, main sèche là. Ça ne traîne pas avec Jésus. Lève ta main et Jésus va le guérir. Et eux, plutôt que de se réjouir, ils ruminent. Ah, ça bouillonne à l'intérieur. Et dès qu'ils sortent, ils se retrouvent en conciliabule et... Elle a dit, vous avez vu ce qu'il a fait? Il faut le mettre à mort. C'est terrible. Il nous est dit que Jésus fut indigné de leur conduite et attristé. Indigné par ce qui a provoqué par leur état de cœur, attristé par les conséquences de leur attitude. Parce que c'est grave ce qu'ils font. Ces hommes sont placés devant l'évidence. Jésus manifeste sa grâce. Jésus manifeste son amour. Jésus montre qui il est, le Dieu qui a tout pouvoir, celui qui peut tout. Et eux, plutôt que de se réjouir, de se laisser interpeller, au moins de se remettre en cause, ils baissent le rideau, ils décident et ils ferment leur cœur. On n'est pas loin du blasphème contre le Saint-Esprit, là. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un refus de croire devant l'évidence. C'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est une attitude de cœur où finalement, on ferme la porte. Quand Jésus a parlé du blasphème contre le Saint-Esprit, je sors un peu de mon texte, Jésus venait de délivrer un possédé. Et devant cette délivrance, ils vont dire c'est par Belzébul qu'il fait ça. Plutôt que d'attribuer à Dieu, ils attribuent au diable. Et devant l'évidence, ils refusent de reconnaître la divinité de Jésus. Vous voyez, c'est une attitude d'endurcissement. Et c'est navrant. Ils sont dans un état de cœur, ils s'endurcissent. Et le résultat, c'est que Jésus s'attriste. C'est bien de désirer voir Jésus faire un miracle, mais attention, pas dans un tel état de cœur. La grande leçon, en tous les cas, c'est que certaines attitudes de cœur, comme l'incrédulité, le refus de croire, l'endurcissement de cœur, attristent Jésus et l'empêchent d'exercer sa grâce. On ne veut pas avoir un cœur plein d'incrédulité cet après-midi, mais on va avoir un cœur animé de foi. On ne veut pas être endurci, mais on veut dire, Seigneur, je veux un cœur souple entre tes mains. Et si tu as quelque chose à me dire, reprends-moi, saisis-moi, retourne-moi. Mais il faut avoir ce cœur-là. Et puis, un quatrième cas, où à nouveau, on voit ce désir de voir Jésus, il est mentionné dans Jean chapitre 12, verset 20. C'est encore différent, et c'est une autre catégorie de personnes. L'évangile de Jean, chapitre 12, verset 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Et Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Voilà une catégorie qui veut voir Jésus. Ce sont des Grecs venus à Jérusalem pour adorer. Ce que l'on appelle des craignants Dieu. C'est-à-dire des Grecs qui ont été évangélisés, entre guillemets, par des Juifs et qui ont cru dans l'Éternel, mais qui ont accepté l'Ancien Testament, qui ne connaissent pas encore Jésus. Il y en avait beaucoup, on en trouve plusieurs, et ils allaient à Jérusalem régulièrement pour approfondir leur foi, pour mieux connaître Dieu. Il y en avait. Ces Grecs, ils sont à Jérusalem et ils entendent parler de ce Jésus. Alors ils vont voir Philippe Et il leur dit, montre-nous ce Jésus, on veut le voir ce Jésus. Philippe, il transmet à Jésus. Et là, attitude étonnante de Jésus, Jésus semble donner l'impression de ne pas répondre à cette demande. Il répond à côté, l'heure est venue, on a l'impression qu'il ne répond pas à leur demande. Et je pense qu'il n'a pas répondu à leur demande. Pourtant, leur désir, il est bon. Il y a une bonne motivation. Ces gens avancent avec Dieu, ils veulent en savoir plus. Et il y a une bonne curiosité. On dit, Seigneur, il faut faire quelque chose pour eux. Et moi, je me mets même à la place de Philippe qui vient voir Jésus. Et Jésus passe à côté. Seigneur, il ne devait pas comprendre sur le moment. L'explication, elle est dans le verset 23. L'heure est venue. C'est l'heure de la croix qui est venue. C'est l'heure où Jésus doit donner sa vie sur la croix. Nous sommes dans la semaine où Jésus va être crucifié, peut-être la veille où Jésus va être crucifié. Et finalement, la demande de ces Grecs, Jésus pourrait y répondre, mais ensuite il y en aura encore d'autres. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont solliciter Jésus. La renommée de Jésus dépasse maintenant Israël. Et l'heure est venue pour que Jésus puisse aller jusqu'à la croix. L'heure est venue pour que Jésus donne sa vie. Et pour que tous les Grecs puissent être atteints, pour que tous les païens puissent être atteints, pour que tous les Romains puissent être atteints, pour que tous les barbares puissent être atteints. Dans les barbares, on met les Gaulois. Hein. Pour que tous puissent être atteints. Et Jésus comprend ça, il était convaincu que l'heure était venue, mais ça ne fait que confirmer que son heure est venue et qu'il faut maintenant se préparer. Il l'était déjà, mais je pense que voilà, c'est le malheur. C'est le moment pour qu'il donne sa vie sur la croix et pour que Jésus savait très bien qu'il ne pouvait pas bénir toutes ces personnes qu'il allait solliciter, ces Grecs-là et puis d'autres. Par contre, s'il donnait sa vie maintenant et qu'il retrouvait sa place dans le ciel par son esprit, il pouvait sauver tout le monde. Et il pouvait atteindre ces Grecs et partout. Et Jésus le savait. C'est aussi dans ce sens-là qu'il donnera cette parole aux disciples quand il leur dira... La nuit où il va être arrêté, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que Jésus, en montant au ciel, il pouvait remplir chacun des cœurs. Il était alors que sur terre, physiquement, il s'est limité physiquement. Forcément, en étant dans un corps, il ne pouvait pas être partout. Mais du ciel, il peut répondre à tous ceux. Il peut répondre ici, si quelqu'un invoque son nom, il pourrait être béni. Mais il peut aussi répondre à quelqu'un qui prie à Aix-les-Bains ou je ne sais où. Quelqu'un partout, Dieu peut répondre. Il est illimité, ça. Quand je dis ça, je pense toujours à cette sœur qui venait de découvrir le Seigneur. Elle lui avait donné sa vie. Et elle s'est convertie avec son papa et sa maman. Et tous les trois se sont fait baptiser le même jour. Et ils avaient compris qu'on peut parler au Seigneur. Alors elle lui parlait. Mais quand elle voyait son père qui s'enfermait dans le bureau pour prier, elle attendait. Elle dit, elle attendait son tour. Elle attendait que Dieu finisse avec son père pour pouvoir le prier. Bon, elle a vite compris après que non, notre Dieu est illimité. Et qu'il pouvait se rendre disponible pour chacun. Mais je trouve ce genre d'erreur assez sympathique, assez comique. Mais voilà, Jésus, en tous les cas, sur terre, il s'est limité. Mais là, il pouvait répondre aux besoins de tous. La grande leçon de cette réponse ou de cette attitude de Jésus, c'est que Jésus voulait sauver tous les hommes. Pas seulement les Juifs, mais il voulait sauver tous les pécheurs. Et c'est pour ça qu'il sait que quand il entend cette demande, ça le conforte encore plus dans cette idée qu'il faut aller jusqu'à la croix. Que l'heure est venue et qu'il faut qu'il donne sa vie pour pouvoir sauver tous les pécheurs qui viendront à lui. Et personne n'est exclu de l'amour de Dieu. Personne n'est exclu du salut. Jésus, il est mort pour tous. Même si malheureusement pas tous ne seront sauvés, seuls ceux qui exerceront la foi et qui ouvriront leur cœur. Je termine simplement en disant, désirer voir Jésus, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. On a vu que ce désir n'a pas provoqué le même résultat. Mais désirer voir Jésus avec la foi, désirer voir Jésus avec le désir qu'il change notre vie, qu'il rentre dans notre cœur, qu'il purifie, qu'il nous sauve, qu'il lave notre conscience par son sang, ça c'est un bon désir. Et ce désir-là, le Seigneur, il y répond. Et je crois qu'il veut répondre à ce désir-là encore cet après-midi. Le Seigneur veut exercer sa grâce. S'il y a quelqu'un qui a le désir de voir Jésus, mettez-le en œuvre, croyez qu'il est là, croyez qu'il a donné sa vie sur la croix pour vous, regardez à la croix, Christ, il a donné sa vie, mais il n'est pas resté sur la croix, il est mort, il est ressuscité, et aujourd'hui il est là présent par son esprit, On va le prier maintenant. Et je voudrais inviter quelqu'un. Quelqu'un à se tourner vers Jésus. Je crois que c'est l'occasion pour quelqu'un.